On ne présente pas Carole Beffa, et on le présente encore moins au Collège de France, puisque Carole Beffa a occupé ici, pendant un an, en 2012-2013, eh bien, une chaire de création artistique. Il a même été le plus jeune titulaire de cette chaire, même jusqu'à aujourd'hui. Et donc, c'est une maison ici qu'il connaît bien et qui le connaît bien. Je suis donc extrêmement heureux de le réaccueillir ici, sur cette chaire ou sur cette table qu'il connaît parfaitement. Carole Beffa, on le présente aussi pas du tout parce qu'il est extrêmement connu comme l'un des plus grands compositeurs français contemporains. Et il a obtenu deux fois les victoires de la musique classique en tant que compositeur. Il a obtenu le grand prix de la SACEM pour la musique symphonique. Mais c'est aussi, c'est un homme avec quantité de vie. Il a aussi été dans une vie antérieure, je ne sais pas comment il a fait, acteur, comédien. Et il est aussi écrivain, musicologue, évidemment, musicologue, maître de conférences à l'École normale supérieure et auteur de nombreux disques, nombreuses œuvres littéraires, de nombreuses œuvres de musicologie, hein, bien sûr. Impossible de citer, je me contenterai juste de deux ou trois titres. Parmi ces deux derniers livres, hein, deux livres importants de musicologie, Diabolus in opera, hein, sur la voix dans l'opéra, et puis par volonté et par hasard, théorie et pratique de la création musicale, paru en 2018 aux éditions de la Sorbonne. Et puis, puisque c'est un compositeur, je voudrais citer son dernier disque ou l'un de ses tout derniers, hein, qui est un disque absolument magnifique que je vous recommande, Talisman, avec plusieurs œuvres dedans, s'intitulant Talisman, les ruines circulaires. Voilà, c'est un disque absolument magnifique que je vous recommande d'écouter, mais tout de Carole Beffa est à écouter, à entendre et à lire. Et aujourd'hui, il nous parle, le sujet n'a pas changé. Je n'ai pas changé. Alors, il nous parle de évaluation et réévaluation, la question du canon musical depuis 1945. Donc, on est vraiment au cœur, je pense, de cette question du canon. À toi, Carole.
Merci infiniment pour cette présentation, extrêmement élogieuse, je pense beaucoup trop élogieuse. Je voudrais aussi te remercier, cher William, de m'avoir invité à ton séminaire. C'est pour moi un grand honneur. Quand tu m'as demandé de participer à ton séminaire l'année dernière, tu m'avais dit qu'il aurait pour titre « Construire et déconstruire la bibliothèque », puisque c'était la thématique de l'année dernière. Et puis tu m'as mis sur la voie en précisant que tu aborderais en particulier la question du canon dans les littératures et les arts. Et après quelques semaines de réflexion, j'ai décidé de me pencher sur la question du canon musical depuis 1945. Alors pour quelles raisons ? Avant de rentrer dans le cœur du sujet, je rappellerai d'abord l'une des positions fortes de l'avant-garde atonale des années 1950, dont le mot d'ordre était la tabula rasa. L'idée des tenants les plus extrémistes de cette avant-garde était de se méfier des œuvres dont les balises perceptives étaient, à leur goût, trop marquées. Alors, qu'est-ce que c'est que ces balises perceptives qu'ils honnissaient ? Pulsation rythmique, harmonie, thématisme, et pour eux, pire encore, la mélodie, et ce mot d'ordre de la tabula rasa les a entraînés à une réévaluation de l'histoire de la musique selon des critères qui leur étaient propres, et c'est précisément de cette réévaluation que je voudrais parler. Alors cette réévaluation, elle comportait un versant qui semble positif, en ce sens que certaines œuvres, jusqu'alors négligées, voire tombées dans l'oubli, méritaient, selon le point de vue des avant-gardistes, d'être remises à l'honneur. Et puis cette réévaluation comportait un versant négatif, d'autres œuvres, et même parfois la totalité des œuvres de certains compositeurs, voire ces compositeurs eux-mêmes, jusqu'alors appréciés, respectés, devaient être différemment envisagés, éventuellement critiqués, voire déboulonnés. À ce propos, je me rappelle, William, que lors de la séance de ton séminaire Malraux ou l'impossible imaginaire à laquelle participait Jean-Louis Jeunel, tu avais fait cette remarque. Toute bibliothèque a un en dehors. Et il faut réfléchir à ce qu'est cet en dehors des bibliothèques. En te suivant, il me semble qu'il sera fructueux d'examiner de près ce que les avant-gardistes voulaient écartée du canon musical. Je commençais par un certain nombre de remarques. J'ai l'impression que dans les bibliothèques invisibles, il y a ce que nous autres musiciens appelons le répertoire. À ce propos, je vais citer l'observation que fait Christian Akaoui au sujet de cette notion de répertoire et en particulier de la naissance de cette notion. Voici ce qu'il écrit dans l'entrée répertoire de l'ouvrage intitulé « Éléments d'esthétique musicale » qui a paru en 2011 et dont il était le directeur. Il y propose une définition que je crois claire et concise de la notion de répertoire. C'est, je le cite, « la liste des œuvres musicales qui forment le fond de ce qui est couramment interprété ». Il date la naissance du répertoire de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Il fait en effet observer qu'avant 1750, et à de rares exceptions près, on ne jouait couramment que de la musique datant des 30 à 50 années précédentes. Il ajoute plaisamment que si cet état de fait avait perduré jusqu'à aujourd'hui, les œuvres de Schoenberg, Berg, Webern, Bartok, Varèse commenceraient peu à peu à tomber dans l'oubli et Bach, Mozart, Beethoven ne seraient pour nous que de grands ancêtres mythiques, de simples noms associés à des musiques quasi inconnues, comme l'étaient Dufay et Josquin des Prés aux yeux des érudits du XVIIe siècle. Pourquoi est-ce que le répertoire n'a pas pu se constituer à proprement parler avant la fin du XVIIIe siècle? C'est, selon Akaoui, alors d'une part parce qu'auparavant, on ne rejouait pas systématiquement les musiques composées. En effet, la plupart des œuvres n'étaient données que l'espace d'une soirée à l'occasion d'un événement bien particulier, même s'il arrivait parfois qu'une œuvre qui avait été particulièrement appréciée par son commanditaire soit, à sa demande, rejouée plusieurs fois. Une autre raison, d'autre part, à cette naissance tardive, était que la production des compositeurs était peu jouée après leur mort. Alors, Christian Akaoui note néanmoins que quelques-uns, et il cite Palestrina, Lully, faisait exception à la règle. Comme donc on ne jouait généralement que les pièces écrites au plus tôt 50 ans auparavant, il n'y avait pas vraiment d'autres musiques vivantes, c'est-à-dire jouées et entendues, que la musique contemporaine. Je le cite, les styles des époques antérieures apparaissaient très vite caduques pour finir par tomber dans un oubli quasi total. Que se passe-t-il donc vers 1800 et en quoi cela va-t-il entraîner la naissance de ce qu'on appelle le répertoire? Il semble que ce soit l'intérêt marqué qui explose à l'époque pour les œuvres léguées par le passé. En effet, comme le souligne Akaoui, la naissance du répertoire aux environs de 1800 est à peu près contemporaine de celle du musée, de la conservation et de la restauration des œuvres d'art. En fait, c'est la façon dont l'époque se met à considérer les œuvres d'art anciennes dans le domaine des arts plastiques qui va modeler la façon dont on va considérer les œuvres en musique. Et cette façon de voir est fortement liée à l'idée de postérité, de pérennité, donc de reprise et de conservation du patrimoine. D'ailleurs, à l'appui de son argumentation, Christian Akaoui rappelle que Liszt comparait la salle de concert au musée et souhaitait même que puissent se répandre des concerts d'une durée, souhaitait-il, comparable à celle de l'ouverture des musées. Aussi, de même que les musées sont des conservatoires d'œuvres d'art qu'ils rassemblent et inventorient, de même le répertoire en musique va consister en la constitution de catalogues d'œuvres des compositeurs. Ajoutons d'ailleurs une autre fonction que le répertoire partage avec le musée est aussi là pour que l'amateur puisse voir les œuvres jugées dignes d'être montrés, qui sont exhibés. De même, le répertoire a aussi pour objet d'établir la liste des œuvres qu'il convient de jouer pour que les amateurs puissent les entendre. Le terme de répertoire, donc, dans son acception musicale, paraît avoir été particulièrement bien choisi. Effectivement, Akaoui rappelle la définition générale du terme, il s'agit d'un, je le cite, « inventaire méthodique, liste, table, recueil, où les éléments sont classés selon un ordre donné ». Et, remarque en passant, il n'est pas étonnant de ce fait que la naissance de l'opus musical soit concomitante de celle de répertoire. En fait, On peut dire que cet ensemble de significations croisées du terme de répertoire a peut-être un lien avec l'idée de bibliothèque dont traite ce séminaire, puisque c'est à la fois le lieu où les livres sont classés, répertoriés, catalogués, et c'est aussi un peu le lieu qui permet de prendre le pouls des goûts littéraires du moment, étant donné que, selon les époques, certaines œuvres vont être mises à l'honneur sur les rayonnages et d'autres reléguées, momentanément ou non, au placard. Comment donc va s'établir le répertoire musical à partir de la fin du XVIIIe siècle? Il va se faire, il va se constituer, on pourrait dire, par une exploration progressive de l'histoire de la musique des siècles passés. Et curieusement, cette exploration va se faire à rebours. Je cite Akawi, grosso modo, au début du XIXe siècle, on redécouvre Bach. Un peu plus tard, on explore les musiques de la Renaissance. Plus tard encore, on exhume les productions médiévales. Et cette redécouverte aura des retombées dans la production des compositeurs. Autrement dit, comme le résume avec pertinence Akawi dans une formule lapidaire, que je trouve particulièrement heureuse, le répertoire est la manifestation la plus nette de l'irruption de l'histoire dans la pratique musicale, irruption qui a deux conséquences majeures, l'histoire de la musique et la musique de l'histoire. Pourquoi ? Parce que l'histoire de la musique se fait par l'exploration des œuvres musicales des temps passés et la musique de l'histoire, je le cite, intègre le passé riche et divers mis au jour par cette histoire de la musique. Donc cette musique de l'histoire qui s'inspire du passé, on la suit à travers les œuvres des compositeurs chez qui on reconnaît les traces d'éléments stylistiques du passé. Un passé qui leur est devenu tangible grâce à la redécouverte progressive des œuvres anciennes. Et Akawi de donner quelques exemples, les six quatuors dédiés à Haydn de Mozart, 1781-1784, qui sont marqués par le contrepoint de Bach, la musique de Fauré, 1845-1924, qui est marquée, elle, par la modalité du XVIe siècle, la messe de Stravinsky, 1947, qui est marquée par l'écriture de Guillaume de Machaut, donc un peu plus loin à chaque fois, dans le temps. Il ne faudrait évidemment pas croire que le répertoire soit figé, établi une fois pour toutes. D'une part, remarquons qu'il n'a ni l'ambition ni les moyens d'être exhaustif. Si l'exploration des œuvres anciennes se veut la plus large possible, on recherche et on exhume régulièrement des partitions que l'on croyait perdues. En revanche, l'entrée au répertoire d'une œuvre, redécouverte ou contemporaine, parce qu'il n'y a pas au répertoire que des œuvres du passé, est sélective. Toutes les œuvres ne sont pas mises sur le même plan, elles ne sont pas toutes jugées dignes d'entrer au répertoire, de compter au nombre des élus. Et le choix, bien sûr, va dépendre du goût de l'époque. Le répertoire n'est pas immuable, il varie. On y entre, mais on en sort aussi. Chaque époque donc s'approprie des œuvres et projette sur elles ses propres centres d'intérêt, distribuant les louanges et les blâmes. Comme on l'a dit, une œuvre peut sortir du répertoire et tomber plus ou moins dans la désaffection. Christian Akawi attire l'attention sur la distinction à faire entre, je le cite, les œuvres du répertoire qui ont bénéficié d'une transmission continue, Mozart ou Beethoven, par exemple, et celles dont la transmission a été interrompue, les musiques baroques ou médiévales. Remarquons que si ces dernières musiques longtemps ont été au purgatoire, elles sont depuis la révolution des baroqueux, ce qu'on a appelé la révolution des baroqueux, du milieu du XXe siècle, devenues très en vogue auprès d'un public relativement important de mélomanes et de plus en plus jouées par des ensembles qui sont souvent créés pour l'occasion et donc elles figurent de plein droit au répertoire actuel. Dans cette communication sur le canon musical depuis 1945, je ne vais pas insister sur cette révolution des baroqueux qui a permis la remise au répertoire d'œuvres de musique ancienne. Je centrerai mon propos sur les options esthétiques des tenants de l'avant-garde, leur jugement sur le canon musical qui existait avant eux, leurs critiques et leurs propositions pour en établir un nouveau. Alors comment est-ce que je suis venu à m'intéresser à ces questions ? Pour cela, il faudrait remonter aux années de la formation de mon goût musical, et je dois dire qu'avant mon entrée au Conservatoire national de musique de Paris, mes études de pianiste et mon passage par les classes d'écriture musicale, c'est-à-dire harmonie, contrepoint, fugue, m'avaient pour l'essentiel familiarisé avec la musique écrite entre 1700 et 1940. De la musique contemporaine, je ne connaissais guère que les pièces qui étaient imposées aux instruments que je pratiquais alors, piano, mais aussi flûte à bec et saxophone, et également les œuvres postérieures à 1960 sur lesquelles avaient fait des exposés mes camarades des cours d'écriture musicale, des étudiants qui préparaient le CAPES ou l'agrégation de musique. Alors, désireux que j'étais d'avoir en main quelques fils rouges qui puissent m'aider à me repérer dans le dédale des concertants, des courants et des chapelles de la musique contemporaine, j'ai adopté un point de vue certes naïf, mais surtout pragmatique et, on va dire, méthodique. Je me suis mis à emprunter un à un, en suivant tout simplement l'ordre alphabétique, les CD qui étaient classés dans la rubrique musique contemporaine de la médiathèque de la rue Mouffetard à Paris. Et d'une certaine façon, c'était une bonne méthode pour découvrir quel était le canon de l'époque. Pour mettre un peu d'ordre dans cet amas de titres et cette multitude de compositeurs, j'ai aussi décidé de me rapprocher des spécialistes et d'aller glaner auprès d'eux quelques pistes de compréhension de cette musique. En 1993-1994, je suis allé suivre les cours du DEA Musique et musicologie du XXe siècle qui était délivré à l'IRCAM. Et là, ma surprise a été grande. J'ai été étonné, même on peut dire ébahi, de voir que dans cet institut, l'étude des compositeurs de la première moitié du XXe siècle se résumait à sept noms et sept noms seulement, c'est-à-dire Debussy, Stravinsky, Bartok, Varèse et les trois Viennois, c'est-à-dire Schönberg, Berg et Webern. Alors, trois années plus tard, apparut un livre de Jean-Noël van der Weyde qui s'intitule « La musique au XXe siècle ». Je me suis naturellement précipité sur ce livre et à nouveau, j'ai constaté que malgré son titre, très général, l'univers musical de l'ouvrage était des plus restreints. Pour ce qui est de la première moitié du XXe siècle, le panthéon de van der Weyde se composait lui aussi des mêmes sept noms de compositeurs à l'honneur à l'IRCAM. En revanche, l'auteur expédiait en une phrase lapidaire des compositeurs aussi célèbres que Maurice Ravel et Serge Prokofiev. Pour quelle raison ? Parce que, selon ses dires, leur, et là je le cite, « leur inexistence n'aurait pas infléchi le cours de l'histoire musicale », phrase qu'on peut trouver à la page 19. Une autre phrase m'a, elle aussi, fait sursauter. D'après l'auteur, je le cite encore, il aurait été superflu de traiter des musiciens de transition, tels Gustav Mahler, Richard Strauss, Max Reger, Hans Pfitzner, Eric Satie ou Alexandre Scriabine. Et me semble-t-il, le plus étonnant de l'histoire, c'est que depuis son année de parution, donc 1997, ce livre est régulièrement réédité et, faute d'autres ouvrages d'ensemble traitant du panorama musical du XXe siècle, l'opinion de ce monsieur, aussi partiale que partielle, me semble-t-il, mais qui se veut universelle, j'irais même jusqu'à dire canonique, est la seule depuis plus de 20 ans à disposition de l'étudiant musicologue comme du simple mélomane qui se la voit donc imposer. Alors, revenons précisément sur les malheureux exclus, ceux étiquetés musiciens de transition et considérés comme superflus. On est un peu surpris par la liste. Je vais les passer en revue et commencer par Hans Pfitzner, dont le cas, je pense, peut être réglé assez vite. J'ai parlé de ce compositeur ici même quand j'ai essayé de répondre à la question « Comment parler de musique ?». Dans ma leçon, j'abordais la fameuse controverse que Pfitzner avait eue avec Alban Berg au début des années 1920. Dans son livre méchamment intitulé « La nouvelle esthétique de l'impuissance musicale, un symptôme de décomposition ?» et qui attaquait la musique de la seconde école de Vienne, c'est-à-dire Schönberg, Webern et Berg lui-même, Pfitzner glorifiait les valeurs romantiques du génie et de l'inspiration. En réponse, Berg, dans un essai extrêmement brillant et lui aussi intitulé de façon assez méchante « L'impuissance musicale de la nouvelle esthétique de Hans Pfitzner », descend en flèche la rhétorique bien pauvre en arguments de Pfitzner. Alors Pfitzner, qui était un compositeur reconnu, même très reconnu à son époque, est un peu oublié aujourd'hui, même si quelques grands chefs dirigent encore certaines de ses partitions. Et son esthétique est jugée dépassée, ses opinions politiques flirtant avec le nazisme n'ont pas arrangé les choses. Les autres noms des ostracisés figurant sur la liste de van der Weyde sont plus étonnants et pour des raisons assez diverses. Prenons Max Reger. Il me semble qu'en toute logique, van der Weyde aurait dû ne pas l'écarter. Pourquoi ? Parce que Reger a cherché à prolonger le chromatisme wagnérien, qu'il a même, d'une certaine façon, complexifié au moyen du contrepoint. Contrepoint qui est d'ailleurs très souvent touffu chez lui. Et puis, par ailleurs, Reger est très appréciée de Schoenberg, et tout ceci s'accorde fort bien avec le goût de van der Weyde et sa vision téléologique de l'histoire. Serait-ce donc l'amour pour Bach de Reger qui en ferait, aux yeux de van der Weyde, un compositeur trop tourné vers le passé ? Probablement. Passons maintenant à Richard Strauss. C'est devenu un lieu commun des tenants de l'avant-garde de considérer qu'après les œuvres incroyablement hardies que sont Salomé, 1905, et surtout Electra, 1919, Strauss aurait commis Le Chevalier à la Rose, 1911, pour complaire à son public bourgeois. C'est par exemple la thèse que défend dans son petit livre consacré à Strauss le musicologue et journaliste Dominique Jameux. Il y aurait donc un bon Strauss, celui d'avant 1909, et un mauvais Strauss qui lui aurait succédé. Peu importe à ces avant-gardistes que Strauss ait renouvelé sa conception de l'opéra en reconsidérant le rapport entre musique et livret, peu leur importe son orchestration étincelante et toujours extrêmement inventive, peu leur importe que son style soit si original qu'on le reconnaisse après quelques mesures d'écoute seulement. J'en viens maintenant à Alexandre Scriabine. Pour moi, son cas est encore plus curieux. En quoi Scriabine mérite-t-il le jugement dépréciatif de van der Weyde ? Scriabine est mort jeune, en 1915, et on pourrait lui reprocher de n'avoir pas suivi les préceptes de la seconde école de Vienne. Surtout, il me semble qu'il est loin d'être un musicien de transition. Pour la plupart des musicologues, au contraire, sa musique a des côtés révolutionnaires et même prophétiques. Sa voie d'exploration harmonique est extrêmement originale, distillant des agrégats rares, toujours plus précieux, on peut dire. Et le systématisme de ses échelles a fait l'admiration de Messiaen, qui voit en lui un précurseur en la matière. Surtout dès les années 1930 et jusqu'à aujourd'hui, il a été, Scriabine, et reste, un modèle pour les compositeurs qui explorent les univers microtonaux. Éric Satie, maintenant. Là encore, il me semble qu'une certaine étroitesse d'esprit amène van der Weyde à méconnaître un compositeur qui est pourtant à l'origine d'un pan essentiel de la modernité. Par son diatonisme radical, son harmonie est novatrice, tout à fait différente de celle de tous ses contemporains. Debussy le tenait en si haute estime qu'il a orchestré deux de ses gynopédies. C'était un proche de Stravinsky qui appréciait tout particulièrement sa fraîcheur et son côté frondeur. Satie a d'ailleurs inspiré le groupe des six, ces compositeurs qui, dans les années 1920-1930, en France, formaient une sorte d'avant-garde. Et il faisait leur la réaction typiquement anti-romantique de Satie. Pourquoi ? Parce que Satie s'appliquait à dynamiter toute tentative d'emphase en musique, tout esprit de sérieux, par un sens de l'absurde affirmé, une fantaisie de potache débridée. Plusieurs de ses titres ont une saveur pré-dadaïste, on peut dire. Trois morceaux en forme de poire, véritable prélude flasque pour un chien, embryon desséché. Surtout, Satie est l'auteur des Vexations. C'est sans doute la première performance de l'histoire de la musique dont l'interprétation exige du pianiste qu'il joue le même motif, je cite, 840 fois de suite. Et donc, à ce titre, son sens du happening fait de lui pour une sorte de préfigurateur du théâtre musical. Une partie d'ailleurs de la modernité musicale d'après 1945, notamment John Cage et l'école de New York, mais aussi les minimalistes de l'Est comme de l'Ouest, le portent au nu. Dernier des bannis inscrits sur la liste noire de van der Weyde est sans doute le plus surprenant, Gustav Mahler. Je pense que c'est vraiment faire injure à cet immense compositeur que le traiter de musicien de transition est parfaitement incompréhensible de la part de van der Weyde. En effet, Mahler s'inscrit très clairement dans la descendance de Wagner. Il est vénéré par Schoenberg, Berg et Webern, qui ont transcrit plusieurs de ses œuvres, et Adorno, dont van der Weyde est un disciple par la vision extrêmement téléologique de l'histoire de la musique qu'il partage, a consacré à Mahler une monographie extrêmement enthousiaste. À propos de ces exclus, notons que Pierre Boulez, tenant et non des moindres de l'avant-gardisme, a porté au pinacle et porté au pinacle par van der Weyde dans son livre, appréciait grandement Scriabine et Mahler, dirigeait volontiers leur musique, et il a dirigé plus d'une fois celle de Strauss, même s'il n'appréciait pas tout l'œuvre de Strauss. Alors pour ce qui est de la seconde moitié du XXe siècle, les choix de van der Weyde faisaient preuve du même parti pris. Certes, il parlait d'Olivier Messiaen, mais par exemple, alors que Poulenc devait se contenter d'une demi-page, Poulenc devait se contenter d'une seule page et qu'Henri Dutilleux était réduit, lui, à une maigre demi-page, Klaus Huber se voyait attribuer 3,5 pages et Brian Fernahow, le chef de file de la nouvelle complexité, avait même droit, lui, à 11 pages. En résumé, van der Weyde, qui dans son livre fait bénéficier certains compositeurs de longues pages d'éloges, réduit d'autres à la portion congrue ou encore en passe complètement sous silence et il se fait le jume suprême du goût musical. Son ouvrage, contrairement à ce que pourrait laisser entendre son titre, la musique du XXe siècle, est loin d'être une présentation neutre et distanciée de cette musique. Par ses compliments, ses discriminations, mais aussi ses exclusions, c'est plutôt un canon musical qu'il entend imposer. Or, rappelons la définition du répertoire que nous avons donné en introduction. Le répertoire est la liste des œuvres musicales qui forment le fond de ce qui est couramment interprété. Il me semble manifeste que le canon de van der Weyde n'a rien d'un répertoire. Mahler, qui est à l'affiche des saisons de toutes les capitales musicales, dont on compte un nombre impressionnant d'intégrales discographiques, est quasiment évincé du canon de van der Weyde, et on aurait du mal à dire que les œuvres de Fernahow, compositeur que van der Weyde honore d'une dizaine de pages dithyrambiques, forment le fond de ce qui est couramment interprété. C'est probablement en partie en réaction à cet ouvrage que j'ai tenu, lors de mes premières années d'enseignement à l'ENS, à faire un cours qui ouvre les étudiants à un panorama beaucoup plus étendu de la musique du XXe siècle. J'ai en particulier, mais pas seulement, intégré dans ce panorama les courants tonals variés qui ont traversé cette époque. Et en même temps, j'ai posé la question des raisons qui avaient pu conduire à les négliger, non seulement, van der Weyde à les négliger, mais la plupart des histoires de la musique récente. Ce cours, je l'ai intitulé avec un brin de provocation « L'autre XXe siècle ». Et au cours des années, j'ai analysé les œuvres de Kodály, Koechlin, Chimanovsky, Sibelius, Prokofiev, Poulenc, Britten, Shostakovich, Dutilleux, Lutosławski, les minimalistes de l'Est, donc Arvo Pärt et Henryk Górecki, par exemple, mais aussi les répétitifs de l'Ouest, comme Steve Reich et John Adams. Par son extrémisme, le livre de van der Weyde est pour moi une caricature. Mais dans d'autres ouvrages, qu'il porte ou non sur le XXe siècle, on retrouve cette même lecture militante des œuvres musicales, avec certains compositeurs qui sont littéralement encensés et d'autres complètement ignorés. C'est le cas, par exemple, dans l'ouvrage d'André Boukhoretchliev, Le langage musical, paru en 1993. Alors, petit rappel, Boukhoretchliev était un pianiste, compositeur, musicologue, souvent extrêmement fin dans ses analyses, qui a écrit des essais sur Beethoven, Schumann, mais aussi Debussy, Stravinsky. Il appartenait à la nébuleuse des compositeurs avant-gardistes proches du domaine musical. Dans son livre « Le langage musical », Boukhoretchliev entend, je cite la quatrième de couverture, « explorer le phénomène musical de l'intérieur, tenter de mettre en lumière ses mécanismes intimes dans leur constitution, etc. Bon, » tout cela est assez classique dans une quatrième de couverture, mais je crois qu'il y a plus intéressant. Il y est aussi annoncé que Boukhoretchliev évoquera dans son livre certaines grandes étapes du langage musical en évolution tenues pour historiques. Et je crois que cette dernière phrase est tout à fait caractéristique de l'une des préoccupations majeures de l'avant-gardisme musical. En effet, l'un des projets des avant-gardistes est, paradoxalement, de se construire un héritage. Pour ce faire, ils cherchent à débusquer dans l'histoire des compositeurs exemplaires ou, du moins, celles de leurs œuvres qui pourraient préfigurer le triomphe de la vérité atonale qu'ils veulent réaliser. Comme ces avant-gardistes ne peuvent être que des héritiers d'autres avant-gardistes, l'histoire de la musique sera lue comme une suite d'avant-gardes succédant à d'autres avant-gardes, chaque étape ne valant que comme absorption et digestion d'une étape antérieure, moins aboutie, et comme prophétie d'une situation postérieure qui la surpassera. Cette lignée, souvent artificielle, de filiation imaginaire est là pour illustrer un parcours conforme au sens de l'histoire et parfaitement balisé. Elle constitue le canon idéal de l'avant-gardisme. Alors, je voudrais ici faire référence à un article qui est intitulé « Pour une autre histoire de la musique, les réécritures de l'histoire de la musique du XXe siècle » que l'on doit au philosophe et sémiologue Jean Molineau et qui, non sans malus, résume en deux phrases cette démarche des avant-gardistes. Il y a une façon d'écrire l'histoire de la musique comme une lutte héroïque entre la nouveauté et la tradition. Elle se présente comme un grand récit, G majuscule, R majuscule, linéaire et orienté, qui conduit de révolution en révolution à la musique du présent et annonce même celle de l'avenir. Que trouve-t-on donc dans ce canon ? Alors, le Moyen-Âge est l'objet de toutes les attentions. Ces périodes sont disséquées avec minutie, l'accent étant mis sur la fascination médiévale pour la numérologie. Pourquoi ? Parce que la mystique des nombres est, pour nos avant-gardistes, forcément annonciatrice du sérialisme. Ils oublient d'ailleurs que la musique médiévale s'est inscrite dans un contexte modal de grande stabilité harmonique, où le sens de la pulsation est omniprésent. Ils oublient également que les sophistications pseudo-mathématiques du Moyen-Âge ont été ressenties comme une impasse par les musiciens de l'époque de la Renaissance et du Baroque. Ça a d'ailleurs incité ces musiciens des périodes postérieures au Moyen-Âge à inventer des procédés techniques qui leur semblaient plus en accord avec le type d'expression qu'ils entendaient privilégier. Moyen-Âge donc, on saute ensuite à Bach, parfois en passant par Monteverdi, mais contentons-nous de parler de Bach pour le moment. Pour eux, c'est le grand précurseur, mais comme les sériels utilisent fréquemment une combinatoire contrapuntique avec canon et mouvement rétrograde, ils vont sélectionner de Bach ses œuvres les plus abstraites, telles l'art de la fugue, l'offrande musicale. Ce faisant, ils passent sous silence un pan entier de la production de Bach, c'est-à-dire les concertos brandebourgeois, les arias, les chœurs des cantates, les oratorios, les passions, les concertos d'inspiration italienne, les suites de danse. Pourquoi ? Parce que toute cette partie de cette production souffre de ne pas se plier à leur schéma d'analyse préconçu. Plus tard, un siècle plus tard, c'est Beethoven qui seul retient leur faveur. Mais attention, presque uniquement le dernier Beethoven. Pourquoi ? Parce qu'avec lui, citons Boukhoretchliev, commencent les temps modernes de la musique sous le signe du doute et de la mise en question incessante de toute chose, sous le signe de l'invention perpétuelle dont il fait obligation aux générations futures. Ainsi, sa grande fugue est censée être le pont qui relie Bach à Webern, et à l'inverse, les concertos de Beethoven, ses trios avec piano, des réussites pourtant incontestables, sont négligés. Pourquoi ? C'est qu'ils sont coupables d'être en grande partie tributaires du vocabulaire du classicisme, toujours, et de cadrer moins bien avec les besoins de la démonstration. De Schubert, compositeur que tu aimes bien, je crois, William, on ne s'attarde surtout pas sur la poésie et la concision des impromptus ou des moments musicaux. On se focalise exclusivement sur les dernières sonates, dont le temps étiré est supposé annoncer les vastes architectures temporelles d'un Bruckner ou d'un Mahler. Mahler, dont Boukhoretchliev moque, je cite, « l'appareil orchestral gigantesque » qu'il trouve, je cite toujours, d'une rhétorique démesurée et démesurément autoritaire, et il ajoute, faisant preuve d'un manque de partialité qui frise, je crois, la mauvaise foi, que si l'autorité, voire le despotisme de Beethoven dans sa symphonie nous subjugue, chez Mahler, ils nous paraissent comme des surenchères, spectaculaires, mais moins crédibles, sinon parfois irritants. De Liszt, les avant-gardistes ne conservent que les pièces lentes, celles dont le sentiment tonal est censé être moins affirmé. De Brahms, aux émioles pourtant bien innocentes, il loue la complexité rythmique qui en ferait un devancier d'Eliot Carter et de sa modulation métrique. Révolutionnaire tous azimuts, Wagner est bien entendu le champion. Boukhoretchliev le dit sans embâge, je cite, « La nouveauté de la musique de Wagner est ahurissante, de quelque point de vue qu'on l'examine. Quant à Debussy, plutôt qu'à ses nocturnes, plutôt qu'à ses préludes, qu'à ses images, à l'éloquence probablement trop immédiate, on va préférer la fragmentation pointilliste du ballet « Jeu » ou des études pour piano, étonnamment pré-webernienne. Dans cette lecture militante, les excommunications ne sont pas rares. Adorno est catégorique. Celui qui se régale encore à l'écoute d'un beau passage d'un quatuor de Schubert ou un concerto grosso de Handel se range parmi les collectionneurs de papillons. Collectionneur de papillons n'est pas tout à fait dans le domaine de la bibliothèque. Dans l'enfer des exclus, on rencontre Fauré, son harmonie singulière, reconnaissable après quelques mesures d'écoute seulement, si différent de celle de ses contemporains, lui vaut son séjour dans le premier cercle de Dante, car elle tourne résolument le dos au chromatisme. Rossini, Donizetti, Bellini, Puccini et tout le bel canto fréquentent les cercles suivants, où ils expient un lyrisme trop éclatant. D'ailleurs, pour Boukhoretchliev, leur langage s'approche du, je cite, « degré minimal de l'élaboration musicale ». De Verdi, si l'on reconnaît son talent théâtral, en revanche, encore une fois, je cite Boukhoretchliev, « On déplore la facilité de son langage musical, non exempt de formules et de vulgarité, dont le fameux terzinato est un exemple typique. Terzinato, c'est le pom-pim-pim-pom-pim-pim. On déplore également un sens dramatique à la, je cite, surcharge affective insistante et croissante, poussée parfois jusqu'à l'insupportable. Je cite toujours Boukrachliev, le second acte et la scène finale de la Traviata sont des modèles de ce travail insistant sur le sentiment qui font toujours pleurer le public de la galerie aux premières loges. Ne parlons pas d'Aïda, cette perle du tourisme italien avec vrai chameau, mais célébrons le dernier Verdi avec Othello et Falstaff, écrit à 80 ans, où tout, y compris le traitement de l'orchestre, prend une singulière consistance musicale et psychologique. Autrement dit, seul le dernier Verdi, celui d'Othello et Falstaff, mérite un bon point, racheté qu'il est par son wagnérisme. Plus bas encore dans l'enfer musical dantesque, on trouve Tchaïkovski à la mièvrerie pathétique. C'est ainsi que Lucien Rebattet, critique qui partageait la plupart des options esthétiques avant-gardistes, il était aussi partisan du nazisme, mais cela n'a rien à voir, écrivait de Tchaïkovski que sa musique, je cite, de névropathe, ne raconte que la nostalgie d'un bonheur pour midinette ou les niaiseries langoureuses communes aux invertis vieillissants. Fin de citation. Quant à Sibelius, expédié sans embâge au IXe siècle de l'enfer, c'est tout bonnement le plus mauvais compositeur du monde, dixit René Leibovitz, qui lui a consacré un livre qui porte exactement ce titre. On voit que l'arbre généalogique de l'avant-gardisme musical, déjà sévèrement émondé de la sorte, est en outre soumis à de curieuses distorsions. L'insistance est mise sur les cas limites, Gesualdo par exemple, et, comme on l'a dit, le Beethoven et le Debussy dernière manière. Pourtant, ces cas illustrent les aboutissements de trajectoires individuelles plutôt qu'ils ne préfigurent l'avènement de l'espéranto musical rêvé. D'ailleurs, cette distorsion de l'arbre généalogique verse parfois dans la cocasserie. Schumann est presériel, c'est Pousseur qui l'a dit. Alors, à force de réduire l'histoire de la musique à une succession d'exemples supposés illustrés des théories de l'évolution du langage sonore instituées comme des tables de la loi, certains avant-gardistes en sont venus à ne plus apprécier l'œuvre musicale en tant qu'objet autonome dans sa singularité. Or, s'il y a bien une chose qui peut être singulière, c'est l'œuvre d'art. Mais, selon nos avant-gardistes, une œuvre musicale ne vaudrait qu'en fonction de son niveau de complexité, d'une part, et d'autre part, de son importance supposée au sein d'une progression historique considérée comme inéluctable. Valeur de complexité, valeur de progrès. Les critères d'artisanat, de métier, les critères esthétiques, tous ces critères sont remplacés par une estimation de l'œuvre selon son degré de modernité ou de structuration. De ce fait, tout ce courant a eu tendance à se focaliser sur les éléments de l'histoire de la musique qui justifiaient leurs propres préoccupations de compositeurs et par suite à valoriser ceux qui étaient censés les anticiper. Seuls ces derniers compositeurs étaient jugés dignes de figurer dans leur canon musical. Autrement dit, une avant-garde académisée a voulu réécrire l'histoire comme la caution de ses dogmes. Par le rejet de toute contestation de leur intangibilité, elle se situe aux antipodes d'une démarche qui, elle, rechercherait dans l'histoire des intuitions à approfondir, des thèmes à renouveler, des champs à explorer. Enfermés dans leur cénacle, les avant-gardistes les plus radicaux, ostracisés à tour de bras et se complaisaient dans un entre-soi, on aimerait, je crois, une relecture de l'histoire de la musique et un canon musical qui s'ouvre à une diversité non seulement historique, mais aussi géographique, et qui, sans jugement idéologique péremptoire, favorise la découverte sensible et la disponibilité d'écoute. On rêve d'une perspective qui approcherait l'histoire de la musique dans toute sa richesse et toute sa variété, selon cette curiosité bien comprise. Merci.